Bien le bonjour. Ils ont obtenu un diplôme en écriture littéraire. Eux, à savoir 14 étudiants, sortis l'année dernière d'un institut à Bienne qui offre une formation à l'écriture unique en son genre en Suisse. Aujourd'hui, d'entre les lignes, nous allons nous pencher sur cette haute école, sur son fonctionnement et nous demander plus largement si l'écriture littéraire peut s'enseigner, à quelles conditions et dans quel but. Nous le ferons en compagnie de deux responsables de cette école et de deux diplômés qui ont suivi tout le cursus. Bienvenue à vous d'Entre les Lignes, votre rendez-vous littéraire sur Espace 2. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'Institut littéraire de Bienne a ouvert ses portes en 2006 et permet désormais à des étudiants de toute la Suisse de suivre une formation en écriture littéraire. Ce parcours d'une durée de 3 ans, vous l'avez suivi, Antoinette Richner et Elisabeth Jobin. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Vous faites donc partie de la première volée de diplômés à qui on a délivré un certificat en écriture littéraire. C'était l'année passée, je l'ai dit. Bravo, tout d'abord. Qu'est-ce qui vous a motivé toutes les deux à vous lancer dans cette voie, Antoinette?
Alors, j'écrivais déjà depuis quelques temps avant d'entrer à l'Institut littéraire suisse. Je pense que c'est peut-être important de le préciser parce que on peut avoir l'impression, si on connaît pas cette formation, qu'il s'agit de créer des auteurs à partir de rien. Je pense que c'est pas le cas. Le but aussi du concours d'entrée, c'est peut-être de repérer des gens qui ont déjà un potentiel ou une envie en tout cas, ou une activité dans l'écriture. Je crois que l'idée principale pour moi, c'était de consacrer 3 ans de ma vie à cette activité de façon intensive. Et je savais que, en tout cas, mes espoirs, c'était d'être encadré par des personnes d'expérience. Et là, à ce point de vue-là, j'étais tout à fait...
Satisfaite.
Ouais, satisfaite, oui, absolument.
Et vous, Elisabeth Jobin, la même motivation?
Moi, je suis entrée par curiosité, surtout, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je sortais du gymnase, j'avais envie d'essayer. J'écrivais aussi, sûrement moins qu'Antoinette, d'autres choses, mais je lisais aussi beaucoup, puis j'avais envie d'essayer.
Eh bien, vous en a pris puisque vous avez obtenu aussi votre diplôme. Anne-Marie, je me tourne vers vous. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est vous qui avez invité ces demoiselles pour faire le point aujourd'hui sur cet institut littéraire à Bienne. Une invitation que vous avez aussi adressée à deux de ses responsables. Ils sont avec nous.
Mais oui, Marie Cafari, la directrice. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Antoine Jacoux, est-ce qu'on peut dire professeur?
Non, si on veut être précis quant à mes fonctions dans cet institut, on doit parler de mentor, hein, je dis mentor avec O, et de mentorat. C'est-à-dire que ce qu'il y a de spécifique dans cet institut, c'est que il y a un accompagnement du travail personnel d'écriture des élèves. Donc il leur est demandé de produire en termes de quantité, de qualité, un volume assez substantiel de travail personnel. Et ce travail est accompagné par un mentor qui est un premier lecteur, qui est un coach, qui est un éclaireur, enfin selon les moments, selon les phases du travail.
Et qui est écrivain en général.
Et qui est quelqu'un qui a une pratique d'écriture. Enfin, pour moi, c'est essentiellement l'écriture pour le théâtre. Mais voilà, donc nous sommes plusieurs mentors qui sommes tous des praticiens, quoi, et puis qui accompagnons le travail personnel de 2, 3, 4, 5 élèves.
On est déjà un petit peu entré dans le fonctionnement de cette école. Avant de dire même ce que c'était cet institut, Marie Cafari, je vous demanderais peut-être à tous de nous donner en quelques mots votre définition si vous deviez expliquer ce qu'est l'Institut littéraire suisse à des gens qui n'en ont pas entendu parler. Marie Cafari.
Moi, je parlerai d'une formation, et puis je pense que c'est important de le dire, qui n'est pas toute seule, qui n'est pas isolée, mais qui est dans une école d'art, dans une haute école des arts, hein, au pluriel. Et je pense que ça, c'est très important parce qu'on sait très bien que les plasticiens, par exemple, se forment à leur pratique professionnelle, à leur pratique artistique. Et on sait moins en Suisse que les écrivains, les auteurs peuvent également le faire. Je crois que cette idée d'être situé dans une école dans laquelle on côtoie des artistes plus expérimentés ainsi que des collègues et des futurs collègues, c'est très important.
Elisabeth Jobin, vous qui l'avez vécu de l'intérieur, qu'est-ce que c'est que cet institut littéraire, en quelques mots?
Pour moi, c'était aussi 3 ans où j'avais la possibilité de me consacrer uniquement à l'écriture, à la littérature, et où je pouvais en parler avec des collègues qui vivaient la même chose que moi, qui avaient le même intérêt que moi, et c'est quelque chose, maintenant que j'ai fini, que je ne retrouve plus. C'est vraiment précieux.
Mmh. Cet échange sur la littérature et sur
nos propres textes, et puis en parler aussi entre élèves, pas seulement avoir ce rapport prof à élève, mais aussi entre élèves, critiquer les textes des autres et s'échanger des expériences, se rendre compte que l'écriture n'est pas forcément un travail solitaire, mais sans être vraiment de groupe, peut être aussi un travail qu'on n'a pas à faire tout seul. Mmh, mmh.
Antoinette Richner.
Moi, je parlerai aussi du répondant. C'est vrai que c'est très différent d'écrire tout seul chez soi et de faire lire peut-être à des amis. Là, c'est tout différent parce qu'on a des interlocuteurs qui sont compétents, des auteurs qui ont une pratique, qui peuvent nous donner leur regard sur notre travail. Je parlerai aussi de peut-être à travailler sur la susceptibilité parce qu'on doit recevoir les critiques des enseignants, des mentors, des intervenants, mais aussi justement des autres étudiants. Et peut-être que dans un premier temps, il faut passer par là-dessus, trouver sa propre réaction artistique, aller au-delà, ne pas se vexer parce qu'on n'a pas, obtenu tout de suite une ovation à notre travail. Puis peut-être la mise en réseau aussi, c'est vrai que c'est une école d'art qui contient aussi d'autres départements, la musique, le théâtre, les arts plastiques, donc on est aussi sollicité à ce niveau-là de rencontrer les autres étudiants. Et il y a la mise en réseau aussi au niveau des langues parce qu'il y a des étudiants qui écrivent en langue allemande, en langue italienne aussi. C'est toutes ces rencontres-là que je voudrais mettre en avant.
Antoine Jacquot, vous avez vécu cette susceptibilité des étudiants. Vous avez dû faire des efforts, devenir très psychologue ou très diplomate avec eux, ou bien c'est une chose qui se passe naturellement?
Non, mais je crois que le premier lecteur est obligé de professionnaliser un peu ces catégories de jugement, quoi. Enfin, on peut pas, vu la confiance qui nous est accordée, on peut pas seulement dire j'aime pas ta fin, ton début était passablement ennuyeux.
Le milieu n'était pas terrible.
Bon, je crois que je me suis un peu endormi au milieu. Non, je crois qu'il s'agit déjà de discuter au fond des intentions de départ de l'auteur ou de la jeune auteure, et d'essayer de faire au fond un aller-retour entre l'objet qui nous est livré, quoi, des impressions de lecteur qui essaye de mettre des mots sur les problèmes qu'il a rencontrés, de clarté ou d'économie ou de structuration ou de choix de la langue. Et comparer au fond ce résultat et les intentions de départ, quoi. Enfin, que souhaitait restituer l'élève, de quoi souhaitait témoigner l'élève, que souhaitait raconter l'élève, quel type d'expérience il voulait proposer au lecteur, de quel type de personnage, et voilà. Et ensuite, ce premier lecteur que nous sommes est comblé ou frustré ou insatisfait, puis on essaye au fond d'échanger sur ces impressions-là, en essayant d'objectiver un petit peu les problèmes qu'on a rencontrés. Alors c'est vrai qu'on peut être exigeant et que ça implique de la réécriture, mais au fond, disons, la réécriture, c'est un enjeu essentiel. Au fond, enfin, c'est peut-être un peu caricatural, mais tout le monde est capable d'écrire, mais réécrire, c'est-à-dire développer aussi une certaine conscience de son travail, de son métier, c'est un des objectifs d'apprentissage. Donc la réécriture, c'est très important.
J'aimerais bien, Antoine Jacquot et vous autres, nos invités, qu'on parle concrètement de l'enseignement. Comment ça se passe dans cette école? Par exemple, là, vous parlez de rapport privilégié entre vous et un étudiant. Mais vous, les étudiantes, vous parliez de contact entre vous. Donc comment ça se passe? Ce sont des ateliers? C'est un travail en bilatéral? Comment ça se passe concrètement, Antoine Jacquot? Un cours, entre guillemets, c'est un atelier?
Non, je crois que, c'est peut-être Marie est plus adéquate pour répondre du point de vue global.
Du point de vue global, on peut dire que le bachelor en écriture littéraire, parce que c'est comme ça que le cursus est structuré.
Rapprochez-vous un peu du micro.
Il a un cœur, au fond, qui est le travail individuel de chaque étudiant, de chaque étudiante. Et autour de ce centre, qui reste la chose la plus importante durant les 3 ans du bachelor, il y a aussi des éléments de lecture, de tout ce qui concerne le rapport au texte, la critique du texte, l'analyse du texte, puis aussi la réalisation de projets, parfois avec des aspects très pratiques, de projets avec d'autres artistes de l'école. Puis aussi, dans le cas de la réalisation de ces projets, un premier contact avec un public qui est un public à la fois interne à la Haute École des Arts de Berne, mais aussi qui peut être un public extérieur à l'école. Donc les enseignements se font d'une part dans un tête-à-tête qui accompagne les travaux individuels des étudiants. C'est ce que racontait Antoine Jacou tout à l'heure, hein, le mentorat. Et d'autre part aussi dans des séminaires ou des ateliers d'écriture qu'on peut peut-être imaginer plus aisément, dans lesquels les étudiants parlent d'une part, par exemple, de leurs travaux d'analyse de texte, mais aussi de leurs travaux d'écriture créative.
Et comment ça se passe? Il y a plusieurs professeurs, il y a des professeurs invités, il y a des écrivains qui viennent d'ailleurs, ou ce sont des gens qui sont rattachés à l'Institut?
Alors, le corps enseignant, il est constitué d'un groupe d'enseignants qui sont là, qui assurent la continuité, aussi un travail pédagogique qui nous occupe beaucoup, puisque l'Institut est jeune, n'a que 3 ans, donc on se pose aussi beaucoup de questions sur la façon dont on travaille avec les étudiants. Et pour et déjà, dans le corps enseignant, il y a une grande diversité de personnes et de rapports à l'écriture, de positions littéraires. Et pour compléter encore le corps enseignant fixe, on invite aussi des intervenants extérieurs qui, alors là, sont présents pour un semestre, parfois pour des périodes plus courtes, pour animer par exemple un atelier d'écriture.
Mmh. Je me demandais, et pour prendre un exemple, essayons de trouver un exemple. C'est pas simple évidemment dans l'émission parce que le temps est compté. Si on pense à une situation de dialogue, je me tourne vers vous, Antoine Jacou, un dialogue entre un humain et un animal. Et là, je pense à ce qu'on a entendu en début de semaine. C'était à l'occasion de votre venue là aussi pour parler de l'expérience faite avec la manufacture, la Haute École de Théâtre de Suisse romande. Une des élèves devait s'adresser à un animal, un cheval en l'occurrence, et elle a créé un texte, elle l'a dit en présence de l'animal. Est-ce qu'on peut imaginer que ce type de situation donne lieu à un enseignement dans l'Institut littéraire de Bienne?
Non, mais s'agissant de ce texte qui était un dialogue avec un animal, très vite, à la première lecture, on peut dire quelles attentes ce texte crée chez le lecteur. C'est-à-dire quelle est la nature de la relation entre le narrateur et puis cet animal. Comment cet animal pourrait éventuellement parler? Quelle est la nature du conflit entre ces deux personnages? Donc on peut proposer des pistes de réécriture et d'amélioration de ce texte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette relation, disons, de mentorat, elle, contrairement aux ateliers, elle va durer 3 ans. Donc cet accompagnement de l'élève, c'est aussi un peu 3 ans de vie avec lui et avec ses textes. Donc ils doivent, et ces 3 ans, cette relation de 3 ans va absorber aussi les événements de la vie, les problèmes ou les drames ou les crises qui pourraient subvenir. Est-ce qu'on écrit là-dessus? Est-ce qu'on n'écrit pas là-dessus? Comment la vie s'invite dans les textes? Ou comment il vaut mieux qu'elle reste un peu en dehors? Enfin, je pense que c'est vraiment un aspect très très spécifique de cet atelier pour, disons, essayer d'imaginer un peu à quoi il ressemble et à quoi ressemble la relation autour des textes.
Antoinette Richner, par exemple, vous avez écrit quand même beaucoup de choses en quantité. C'est un travail, on a dit que c'était un travail personnel au départ, donc c'est vous qui proposez un sujet, vous proposez une ébauche de texte et puis vous le travaillez après?
Alors, tout dépend du cadre, en fait. Donc, on a parlé du mentorat où c'est effectivement une production personnelle. Donc ça, faut bien s'imaginer, en fait, c'est un travail chez soi ou dans l'endroit où on a envie d'écrire, un travail solitaire. Et après, le mentorat, c'est une discussion autour du texte. Après, il y a ces ateliers avec des intervenants spécifiques. Là, je dirais, l'intérêt, c'est qu'il y a peut-être une consigne ou en tout cas une contrainte qui est la même pour tous. Là, on est vraiment invité à produire autour d'un problème. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la multiplicité de ce qui est rendu. En fait, chaque élève a traité la consigne à sa manière. C'est là que ça devient enrichissant aussi, je pense.
C'est aussi une formation pour l'imagination, d'une certaine façon, parce que c'est parfois de l'ordre du brainstorming, non? Si chacun propose ses pistes, son approche personnelle, finalement, une quantité d'imaginaire très important.
Je pense que l'imaginaire, est-ce que c'est un potentiel c'est quelque chose avec lequel l'élève vient à l'institut, il l'a déjà en lui. Après, c'est une sollicitation, effectivement, mais c'est pas l'institut qui va nous donner l'imagination.
Non, c'est clair.
C'est une canalisation, plutôt.
Ouais, façon de préciser, c'est vrai, d'être peut-être plus conscient de ce qu'on fait, d'envisager la chose avec plus de sérieux ou plus d'engagement, je crois. On a parlé de pratique, ce terme, il me semble important. Moi, c'est ça qui a été transformé. L'envie d'écrire, je l'avais, j'écris toujours, mais maintenant, c'est une pratique peut-être plus quotidienne ou plus... J'ai aussi plus d'exigences, je considère moins vite que le texte est abouti, par exemple.
Elisabeth Jobin, vous êtes toujours sentie libre avec, par exemple, les textes personnels. Vous pouviez choisir vos thèmes, vos sujets, vous apporter ce que vous désiriez, ou bien vous étiez quand même prise dans une contrainte qui est simplement celle de l'école?
Mais moi, je me sentais assez libre, en tout cas pour le mentorat. Les ateliers, comme l'a dit Antoinette, on avait un thème, on avait une contrainte, mais ça voulait pas dire qu'on était forcé de suivre un style ou juste une piste. Mais c'est vrai que au mentorat, ça doit venir de l'élève. Le texte doit venir de lui, l'idée doit venir de lui. Et puis parfois, ça peut être assez difficile. En fait, c'est des fois on s'ouvre de manque d'idées, puis c'est là aussi que peut intervenir le mentor. Et puis soulever un de nos problèmes, soulever une de nos idées, et puis nous demander de la développer. Et puis c'est aussi à ça que sert le mentor.
Marie Caffary, on a parlé de cet enseignement donc interactif, avec des mentors, avec des professeurs, avec d'autres gens. Mais comment se passe la relation entre les élèves eux-mêmes? Vous avez pu définir un petit peu ces liens, les observer?
Ce qu'il faut peut-être aussi préciser d'emblée, c'est que les étudiants de l'Institut littéraire sont peu nombreux. Il y en a 15 par volet. Donc, on a 3 volets qui sont chacune un groupe avec sa propre dynamique, des relations qui varient d'une année à l'autre. Et ce que racontaient aussi Antoinette et Elisabeth, je crois que c'est effectivement très important, ces relations qui s'établissent dans le groupe. Alors, en tant qu'enseignant, on peut pas définir ou imposer ces relations. Elles naissent, elles sont différentes d'une année à l'autre. Bien sûr qu'il y a transversalement d'une année sur l'autre aussi des étudiants qui peuvent coopérer, qui travaillent ensemble. Il y a des affinités, mais aussi des questions de rivalité. Je crois que là, c'est aussi une bonne préparation à ce qui vient après, hein, pouvoir répondre à ses collègues, pouvoir défendre son texte, avoir une position par rapport à son texte, avoir un rapport personnel à son texte aussi. Je crois que tout ça, ce sont des choses qui peuvent se développer dans le groupe, et ce sont des choses sur lesquelles, en tant qu'enseignant, on peut intervenir, mais que d'une façon assez limitée, heureusement d'ailleurs.
Il y a aussi la question, bien sûr, vous l'avez apporté, de l'enseignement transdisciplinaire. Vous avez parlé de la Haute École des Arts de Berne, dont vous faites partie, hein. Vous êtes une émanation, oui, de cette école située ailleurs. Moi, j'ai toujours l'impression, quand je vois les programmes que publie l'École de Berne, c'est que c'est d'une telle richesse que ça devient impossible à saisir de l'extérieur. Est-ce que vous avez ce syndrome-là aussi de la transdisciplinarité et de l'ouverture tous azimuts sur tous les arts, toutes les formes, toutes les collaborations entre vidéo, musique, jazz, cinéma et tout ce que vous voulez?
Un
symptôme. Non, je crois que comme dans toute l'école, au fond, l'accent est mis sur le travail individuel des étudiants. Nous ne sommes pas les seuls à mettre cette part importante du travail en avant. Bien sûr qu'il y a une certaine complexité, mais tout étudiant peut décider s'il va interagir de façon intense, plus ou moins intense avec d'autres disciplines artistiques. Et chacun peut décider, au fond, de côtoyer plus ou moins intensément des collègues d'autres disciplines. Cela dit, c'est vrai que pour chaque étudiant du bachelor dans toute la haute école, chacun doit réaliser des projets en collaboration avec d'autres artistes, donc doit être capable de dialoguer avec d'autres artistes. Peut-être, moi ce serait en tout cas ce que j'en attendrais, peut-être développer une meilleure conscience de son propre travail, de la particularité dans notre cas du texte, de la littérature, et d'arriver à dialoguer avec un artiste visuel qui a, lui, d'autres moyens de communication par rapport à son travail aussi.
Elisabeth Jobin, vous aviez choisi une autre forme d'art, vous aviez une préférence de collaboration?
Non, pas spécialement. En fait, il y avait toujours des ateliers proposés, là aussi, des ateliers interdisciplinaires avec déjà un thème, et on pouvait s'y inscrire, et là parfois on tombait sur des élèves de musique, comme musique opéra, comme de design, et puis là je me laissais surprendre.
Mais peut-être que je peux juste ajouter quelque chose, donner un exemple concret. Oui. La transdisciplinarité dans la littérature, elle n'est pas du tout, elle n'est pas si complexe que ça. Hein. Si on parle de théâtre, de texte, de théâtre, tout de suite, on doit faire appel à d'autres compétences que des compétences textuelles. Et par exemple, à l'Institut, on organise régulièrement des ateliers autour de la création de livrets d'opéra. Et on fait, donc là, la collaboration peut se faire entre spécialistes de la musique et spécialistes du texte, où plusieurs fois, des étudiants réalisaient un livre où se mêlaient le dessin et le texte, et les personnes, les participants devaient réaliser cet ouvrage ensemble. C'est-à-dire que le dessin ne vient pas simplement illustrer le texte ou le texte expliquer l'image. Donc ça peut être des exemples de travail interdisciplinaire. Ça ne veut pas du tout dire qu'on attend d'un auteur, d'un écrivain qu'il se mette, je sais pas, à pratiquer le chant lyrique ou la vidéo ou à devenir un comédien.
Ou le jazz. Le jazz, je propose ici de faire une petite pause musicale, si vous êtes d'accord, avec ce morceau. Alors, je l'ai choisi en forme de clin d'œil. Ça s'appelle Star Maker. Star Maker, le fabricant de stars. On est un peu aux antipodes quand même aujourd'hui dans l'émission dans Entre les lignes. Le quintet de Roy Hargrove. Star Maker, une création, une fabrication de stars tout en décontraction ici par Roy Hargrove, le trompettiste américain, dans son quintet. Alors, intéressant les jazzmen pour s'affirmer dans leur art, doivent se confronter, se mêler aux autres, jouer, pratiquer leur propre instrument, évidemment au départ, mais en même temps participer à ce qu'on appellerait un bœuf. Est-ce que le bœuf existe en écriture littéraire? Je me tourne vers vous, mesdemoiselles, c'est-à-dire cet exercice un peu impromptu où on doit trouver sur le moment des formules, des réactions. Vous avez été confrontée à cette situation-là?
Occasionnellement, oui, on a eu des moments où la spontanéité ou l'improvisation était sollicitée, dans le cadre, par exemple, d'écriture en temps réel, où on avait, je sais pas, un quart d'heure pour écrire, alors tout le monde se précipitait sur son ordinateur, et après on confronte les résultats. C'est vrai qu'il peut jaillir des choses à ce moment-là, pas obligatoirement. Il y avait aussi des expériences, je pense à l'atelier avec Enzo Corman, par exemple, autour de l'écriture dramatique, où on a produit un premier matériau, on se l'a échangé, puis après on a construit en puisant un petit peu dans les textes des autres. Donc ça donne des choses un peu hybrides.
Anne-Marie Rine.
Oui, au-delà de la collaboration entre vous, j'ai vu dans les objectifs de l'Institut littéraire suisse, des objectifs qui sont très clairement définis, d'ailleurs, qu'il y a la création de réseaux. Alors là, j'imagine que c'est des réseaux extérieurs et que c'est en relation quand même avec l'idée que l'écrivain doit se vendre, doit vendre ses productions, doit, je sais pas, dans la vie réelle, il devra trouver un metteur en scène de théâtre, trouver un éditeur. Comment est-ce que vous abordez ça, Marie Cafari, dans les école.
En tant que directrice, je le rappelle, de l'Institut.
Je crois que l'importance dans une telle formation, bien sûr que le marché est pas seulement autour de l'Institut, il est transporté aussi avec les personnes qui travaillent à l'Institut, puisque les enseignants sont des écrivains, ils ne travaillent au fond qu'à temps partiel à l'Institut littéraire, donc ils amènent avec eux aussi leur travail à l'extérieur, les questions qui se posent, leurs relations avec leurs éditeurs, avec peut-être des metteurs en scène, avec l'organisateur d'un festival littéraire, etc. Donc l'école ne se définit pas comme une espèce de cocon ultra protégé. Ça reste un lieu où on peut prendre des risques, donc on est quand même en tant qu'étudiant relativement protégé, et ça je trouve que c'est très important. Je pense que ce qui est important pour les étudiants, c'est de pouvoir après faire des choix. Je crois que on ne peut faire des choix que si on est conscient au fond de certains impératifs. Si la formation atteint ses objectifs, en sortant du bachelor, on sait un petit peu comment ça se passe, on en a déjà parlé, et on peut peut-être, en meilleure connaissance de cause, en meilleure connaissance des enjeux, prendre des décisions lorsqu'on entre en relation peut-être avec un éditeur.
C'est toujours l'édition qui est au bout du voyage, en somme?
Pas nécessairement, je pense pour beaucoup d'étudiants, oui, mais pas seulement. Ça peut être aussi effectivement un travail de coopération dans le domaine des textes de théâtre, plus classiquement. Ça peut être aussi d'autres formes littéraires plus inattendues, qui là effectivement nécessitent des contacts avec un réseau. Et le réseau, c'est pas seulement des personnes qui vont vendre votre travail, c'est aussi des collègues avec qui vous pouvez travailler, qui peuvent vous aider, vous soutenir, vous donner un conseil. Je crois que ça, c'est aussi très important.
Quand on parle de ces choses-là, Antoine Jacquou, est-ce que vous arrivez peut-être mieux maintenant, après cette expérience à l'Institut, à faire la part des choses entre l'activité commune, l'échange qu'on demande aux élèves, mais aussi à un écrivain en général, et puis ce qu'on imagine toujours quand on imagine un écrivain, c'est la solitude, l'ordinateur, le bureau, la réflexion, la prise de tête, tout ce qu'on veut. On imagine plutôt l'écrivain comme un solitaire.
Je crois qu'il y a toute une tradition qui imagine l'écrivain comme un grand solitaire, le scénariste comme un solitaire, le dramaturge comme un solitaire. Et puis à côté de cela, enfin il y a un courant, disons, qui fait de plus en plus d'adeptes et de convaincus qui pensent que l'ouverture du processus créatif, la formation, l'accompagnement a des vertus véritables. Après, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'avoir 8 personnes autour de sa table dans toutes les phases du développement de sa pratique. Mais ça veut dire que accepter l'idée d'un retour, accepter l'idée d'un accompagnement, accepter l'idée de d'autres interlocuteurs peut profiter à la pratique sans complètement inhiber la dimension personnelle qui est à l'origine, au fond, de cette expression.
Mais je vous propose, tenez, à ce sujet, Antoine Jacou, d'écouter, c'est pas encore une archive, ça date de 2005, mais enfin un enregistrement qui a bientôt, oui, bientôt 10 ans, bientôt 5 ans, on avait enregistré un débat avec plusieurs acteurs potentiels de cet institut, et puis des gens sceptiques, des écrivains sceptiques. Parmi eux et parmi elles, ici, Sylvia Ricci-Lempen.
À mon avis, dans cette histoire, il y a une grande confusion entre le terme d'écriture et le terme de littérature. Et j'aimerais préciser ce point parce qu'il me paraît fondamental. Autant je me sens acquise à l'idée d'un institut qui remettrait l'écriture au centre de nos préoccupations, l'écriture sous toutes ses formes, qui essaierait de former les gens à l'écriture, de restituer à l'écriture comme moyen d'expression sa dignité et sa légitimité dans une société qui la valorise de moins en moins, et ça je crois que je n'ai pas besoin d'en faire la démonstration, autant je suis acquise à l'idée d'un tel institut de valorisation du médium écriture, autant je suis perplexe à l'idée qu'un tel institut soit appelé institut littéraire et prétende former à l'écriture littéraire, non pas que certains écrivains, beaucoup d'entre eux-mêmes, ne pratiquent aussi des formes d'écriture instrumentale pour lesquelles il est nécessaire effectivement qu'ils soient formés, mais je crois qu'il faut maintenir la distinction très nette entre certaines formes, de nombreuses formes d'écriture instrumentale, dont je peux donner quelques exemples. Ça va de la publicité à la muséographie, à toutes sortes de domaines culturels ou paraculturels dans lesquels il faut savoir écrire. Et beaucoup d'écrivains font ça pour leur plaisir ou pour gagner leur vie, et c'est très très bien. Mais je tiens à ce que on maintienne la distinction entre ce type d'utilisation instrumentale de l'écriture et l'écriture créative proprement dite, qui, à mon avis, je suis peut-être un dinosaure, je ne sais pas, si je le suis, je le revendique, mais qui, à mon avis, reste une affaire éminemment personnelle parce qu'il y a une alchimie trop complexe à la base de l'écriture créative pour que, à mon avis, on puisse vraiment parler de formation à l'écriture créative.
Les propos sceptiques de l'écrivaine et philosophe vaudoise, enfin elle vit, elle est installée près de Crevaux, sauf erreur, Sylvia Ricci-Lempen, au moment où il était question, c'était en 2005, de créer cet institut. Alors elle faisait la distinction, Antoine Jacou, entre écriture instrumentale, écriture littéraire. Votre réaction?
Enfin, il y a une très vieille idée dans cette position, quoi, qui garde encore de nombreuses émules, quoi. C'est l'idée que, au fond, le talent vient de Dieu, qui n'est pas susceptible d'enseignement, d'entraînement, d'émulation, de stimulation, que éventuellement certaines techniques, c'est ce qu'elle distingue de l'écriture, de la littérature, l'écriture instrumentale, pourraient être l'objet d'enseignement, mais que ce qui relèverait de l'art, au fond, n'est pas susceptible de transmission, d'un encouragement qui serait formalisé. Donc c'est une idée, bon, elle dit elle-même que c'est une idée de dinosaure, c'est aussi une idée qui est éventuellement latine, parce que pour travailler, pour faire beaucoup d'ateliers d'écriture dramatique un peu partout en Europe, je vois que du côté anglo-saxon, du côté allemand, du côté des pays, ce qu'on appelait les pays de l'Est, on est très largement acquis, hein. Kundera enseignait la nouvelle à l'école de cinéma de Prague autrefois. On est complètement acquis à l'idée d'une transmission. Alors qu'en France, en Italie, c'est des pays qui sont souvent absents de ces programmes, puis qui gardent une idée, je trouve ça, c'est tellement élitiste, quoi. Au fond, ça ne dit pas son nom, mais c'est désagréablement élitiste, je trouve, au fond. L'alchimie complexe, donc, échappe au commun des mortels. Alors, bien sûr qu'on n'enseigne pas le talent. Enfin, bon, ce qu'on appelle, ce truc magique qu'on appelle le talent. Mais un développement de créativité, le développement de capacité à écrire, la dédramatisation de cette idée de l'inspiration, en fait, qui fait penser qu'il y en a des gens qui sont inspirés et d'autres pas. c'est quelque chose qui se développe, qui s'enseigne, qui s'accompagne.
Anne-Marie ?
Oui, mais je me demandais s'il n'y a pas aussi une confusion qui viendrait de l'école. Parce qu'on a l'impression que si quelqu'un vous dit « je veux être pianiste », c'est normal qu'il aille au conservatoire suivre des cours de piano parce que tout le monde ne joue pas du piano. Or, il semble que, comme tout le monde était à l'école, on devrait tous savoir écrire. C'est, Antoine, je sais que vous aviez envie de réagir aussi aux propos précédents.
Oui, c'est vrai que j'aimerais bien réagir parce que je trouve que dans cette polémique, c'est systématiquement opposé, en fait, le principe dont Antoine a parlé, c'est-à-dire le talent ou l'inspiration ou le monde intérieur, on peut appeler ça comme on veut, enfin, cette force un peu invisible, avec l'idée, ben, justement, d'une formation, d'un travail en atelier ou en cours avec des retours critiques. Et moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'un exclurait l'autre et pourquoi on pourrait pas avoir du talent, parce qu'on peut avoir, je pense, du talent et écrire des choses qui sont pas abouties parce qu'on prend peut-être le travail moins au sérieux ou on va pas jusqu'au bout de la démarche de radicalisation d'une voie personnelle. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir du talent et suivre une formation? Je dis pas que c'est la seule voie possible. Il y a des gens qui s'en sortiront très bien en solitaire. On se prétendra pas plus écrivain parce qu'on a fait la formation, enfin pas pour moi. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est inconciliable dans tellement d'esprits actuellement.
Moi j'avais deux questions quand même à vous soumettre en lien avec ce qu'on vient de dire, de Béotien. D'une part, qu'est-ce qui explique selon vous, alors je me tourne de nouveau vers vous, Antoine Jacou, qu'est-ce qui explique ce rapport privatif des Latins à l'écriture, à la lecture? Vous avez une idée? Qu'est-ce qui ferait le fossé justement entre les Latins et les Germains? Il n'y a pas que l'élitisme.
Non, je ne sais pas très bien. Je ne suis pas vraiment un historien de la culture, mais disons que s'agissant de la France, de l'Italie, ce sont des pays qui sont absents de tous ces programmes qui se développent depuis quelques années, disons, surtout en écriture dramatique, et qui a peut-être une idée de l'intellectuel, il y a une idée du génie artistique au fond qui rend rétif à toute forme de transmission au fond
et de partage
et au fond par exemple la Pologne qui est un pays où je travaille souvent, disons, les grandes figures de la littérature, les grandes figures du cinéma ont toujours gardé du temps pour l'enseignement et que la transmission c'est quelque chose de très très important. Et je suis pas sûr qu'en France, on soit beaucoup dans la transmission quand on a atteint une position élevée dans le champ artistique.
Marika Fari ?
Oui, je pense que le rôle de l'écrivain, l'idée du métier d'écrivain est considérée de façon très différente selon qu'on se trouve dans les pays anglo-saxons ou plutôt francophones. Il y a une longue tradition dans les pays anglo-saxons de la discussion du texte par les auteurs. Il suffit d'écouter la radio, il y a très souvent des auteurs qui sont interviewés sur leur travail, des discussions au fond d'ateliers, mais vraiment sur les grandes chaînes de radio, par exemple sur la BBC, et il n'y a aucune réticence au fond de la part des journalistes, de la part du public qui est parfois invité, à poser des questions sur le métier d'écrivain. Et donc, en tant qu'auteur en Grande-Bretagne, on a plusieurs rôles. On a le rôle, on est artiste, on est reconnu en tant que tel, et on peut aussi parler, transmettre toutes sortes de choses autour de son métier, de sa pratique, alors à des personnes dans le cadre de formation universitaire ou autre, mais aussi à un plus large public. Il y a une tradition de la discussion de l'écriture littéraire qui est ancrée, qui date d'il y a très longtemps, des années 20, de 1920.
Mmh. Avant de vous céder la parole, Anne-Marie, pour la suite de la conversation et la conduite de la conversation, cette deuxième question qui me trotte dans la tête en vous entendant, est-ce que l'Institut n'offre pas un lieu de discussion qui aujourd'hui tendrait à faire défaut entre un écrivain et son éditeur? C'est-à-dire cette relation d'échange, de concertation autour des textes, est-ce que vous n'offrez pas, vous n'êtes pas peut-être le dernier bastion d'un échange possible et qui commencerait, enfin qui est déjà en train de s'effacer du temps laissé à l'éditeur et de ses charges Marie Cafari?
Je pense que oui. Je pense que ce type de discussion-là, de retour critique sur un texte et sur aussi les intentions qui sont en amont du texte, je pense que les maisons d'édition ont de moins en moins le temps de le faire. C'est un débat effectivement très très actuel. J'ai lu plusieurs articles à ce sujet récemment. Alors c'est pas notre rôle principal, mais c'est vrai que notre travail, c'est aussi ce travail-là de la autour de la construction du texte jusqu'à sa dernière version, au fond, jusqu'au moment où il peut être lu par d'autres, par un public plus large, et qu'il peut, enfin, au fond, vivre sa vie de texte de façon indépendante.
Mm-hmm. Marie Green.
Mais puisque vous, je crois, dans les intentions de l'Institut littéraire, c'est de former des gens qui ont un rapport avec l'écriture, mais qui va pas être forcément celui d'auteur, est-ce que vous envisagez aussi que certains des élèves deviendront des éditeurs, peut-être?
C'est tout à fait possible. Alors, certains étudiants s'intéressent déjà à la rédaction, au regroupement de différents textes, travaillent à des revues plus ou moins connues ou underground, ou eux-mêmes mettent sur pied pour parfois des périodes assez brèves des produits littéraires qui ressemblent à des revues qui sont des revues littéraires. Donc oui, je crois que pour certains, les 3 ans de formation permettent au fond de découvrir aussi ça peut-être sa place à l'intérieur d'un champ littéraire qui est assez vague et qui est très vaste et qui n'est pas seulement celui du texte en prose qui va être publié dans une maison d'édition. Il y a toutes sortes d'activités autour de la transmission du texte qu'on peut aussi découvrir à l'Institut.
Oui, un autre aspect qu'il faudra aborder quand même, on est un peu dans les aspects polémiques, là, sur à quoi ça sert cette école, mais il y a une autre chose qui a été soulevée souvent par des gens un peu critiques, c'est l'aspect bilingue. Pour se dire, moi c'est un petit peu l'impression que j'ai, c'est que comme objectif de l'Institut, le bilinguisme est une sorte de deuxième objectif. Un, c'est d'enseigner la littérature qui est déjà quelque chose d'important, et en plus dans un cadre bilingue. Est-ce que c'est trop lourd ça peut-être, Marie Cafari?
Non, je pense pas que c'est trop lourd. C'est ambitieux, mais je pense que c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux. Je trouve que la Suisse est un espace littéraire qui est très cloisonné parce que la Suisse est petite. Il y a beaucoup d'écrivains, mais les langues font que chacun est très cloisonné dans une région qui est au fond, qui se referment sur elles-mêmes à cause des barrières linguistiques. Et donc, en créant un institut littéraire, une formation pour jeunes auteurs, en rassemblant au moins des écrivains de langue allemande et de langue française, en les faisant se rencontrer, on décloisonne, on ouvre, on essaye au moins d'ouvrir des frontières. Alors, je ne dis pas que c'est simple, que c'est facile, que c'est rapide. Je crois que c'est vraiment un travail dans la durée. Mais je pense que c'est déjà maintenant productif. Je pense que pour les enseignants comme pour les étudiants, ils rencontrent là des écrivains qu'ils n'auraient jamais rencontrés autour d'une table, autour de discussions qui concernent par exemple les travaux des étudiants, qui sont un peu justement en dehors de par exemple de festivals ou du marché littéraire, de la traduction, etc. Ça n'existe pas ailleurs. Mmh.
Et c'est l'opportunité Antoine de découvrir Jacquet. Un territoire, la Suisse alémanique, où il y a une floraison de lecture, où la lecture qu'elle tire vers le cabaret, qu'elle aille vers le slam, enfin il y a vraiment une floraison extraordinaire, ce qui explique après l'engouement de beaucoup de jeunes, disons, pour des carrières ou des activités littéraires. Et on a tout à gagner de découvrir que les formes de production de la littérature sont multiples, sont polymorphes, et que tout ça vit avec une grande intensité en Suisse allemande.
Elisabeth Jobin, est-ce que vous, comme élève, vous avez vécu ça, cet échange? Vous avez appris des choses, par exemple, sur les pratiques en Suisse alémanique? C'était important pour vous?
Oui, c'était important. J'ai justement eu la possibilité d'avoir un contact très intéressant avec des alémaniques qui avaient les mêmes envies que moi, les mêmes passions, et puis de découvrir comment c'était chez eux et de pouvoir comparer à la Romandie, puis se rendre compte que non seulement on a toujours peur de traverser cette frontière, mais que finalement on a vraiment tout à y gagner, comme disait Marie Cafari, que c'est beaucoup plus dynamique finalement, c'est beaucoup plus expérimental, et puis il y a de quoi s'en inspirer.
Et vous allez faire des choses un peu à la Suisse alémanique. Vous avez envie d'entrer dans cette ces habitudes-là.
Mais j'avais aussi envie d'entrer dans cette culture. Maintenant, j'habite en Suisse allemande.
Justement, qu'est-ce qui change vous avez découvert totalement nouveau.
Mais c'est déjà rien que le rapport à la langue, je pense. On a un rapport assez normatif avec la langue française, où on a une certaine idée, comme les francophones qui ont peur de parler une langue étrangère parce qu'ils feront des erreurs. C'est beaucoup moins présent en Suisse allemande, déjà parce qu'ils ont ce dialecte et puis parce que ils osent vraiment faire quelque chose de leur langue. Ils la voient plus comme une matière. Et ça, c'est un rapport tout différent que je trouve extrêmement intéressant.
On est dans un pays où le niveau d'échange culturel entre les deux communautés est absolument piteux et misérable, quoi. Enfin, c'est un des grands scandales de ce pays.
Contre lequel vous luttez vous-même, Antoine Jacou, dans votre pratique personnelle.
Heureusement, j'ai pas mal de rapports avec des collègues alémaniques et on fait des choses ensemble. Mais là, je trouve que l'institut, ça peut être une sorte de plateforme qui stimule des échanges productifs qui n'ont quasiment pas lieu, au fond. Mmh. Sinon, on fait à peu près rien ensemble.
Mmh. Les réseaux sont complètement différents, faut dire. Mmh. Parce que les éditeurs, tout ce qui est du domaine du spectacle, c'est évidemment, on a dans des réseaux totalement différents. Mais vous, Antoine Trichner, qui vous intéressez, je crois, au théâtre, le lien avec la Suisse alémanique, ça vous a aidé?
J'ai eu l'occasion de m'inscrire à des ateliers d'écriture dramatique qui étaient par exemple dirigés par Lucas Berfus. Donc c'était en langue allemande. Et c'est vrai que ça a pu être par moments une épreuve de parler de mon propre texte ou de celui des autres dans une langue étrangère. Mais en même temps, c'était un exercice très intéressant parce que ça oblige à trouver des mots, à essayer d'extraire la pensée principale, à parler de la structure. Il y a plein d'aspects qui sortent aussi, qui ne seraient peut-être pas sortis si j'avais pas parlé qu'en français.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Je vous propose, on se tourne vers
Philippe,
l'avenir.
Qu'on parle d'avenir. Oui. D'avenir, puisque nous avons deux jeunes diplômés, donc c'est l'avenir qui s'ouvre. Est-ce que vous arrivez, vous, à dire déjà maintenant où vous allez, enfin où vous avez envie d'aller en tout cas, parce que cette école vous a formé, maintenant elle vous lâche un peu dans la nature, c'est ça? Ou c'est peut-être pas vrai, Marie Cafari, dites-nous quel soutien vous apportez à vos élèves.
Alors pour cette première volée, je suis très contente. Tout le monde a une occupation, une activité. Personne n'est perdu dans la nature. On a essayé de les soutenir le mieux possible. Mais il y a aussi un moment donné où une formation se termine et puis il faut savoir dire au revoir. Puis il faut avoir confiance dans les étudiants, leur capacité à avoir des ressources et à trouver leur chemin. Ça, je crois, on essaye pendant la formation de les y préparer. Alors la question reste ouverte, est-ce qu'on les y prépare assez? Je crois que c'est une question que nous posons avec beaucoup d'intensité. Je suis pas sûre que toutes les formations se la posent avec autant d'acuité.
Formellement, est-ce qu'il y a une possibilité de faire un master ou il va y avoir cette possibilité?
Oui, dès la rentrée de septembre 2010, il y a la possibilité de faire une formation de 2 ans de niveau master au sein d'un master conjoint et interdisciplinaire avec les arts visuels et la musique et les arts médiatiques. Dans cette formation, il y aura aussi un domaine littéraire dans lequel les étudiants qui traduisent des textes littéraires et qui écrivent pourront faire un master.
Alors revenons aux étudiantes, vos projets, Elisabeth Jobin, si on peut en parler.
Oui, moi je viens de m'inscrire à l'université, donc j'en ai encore pour 4-5 ans. Donc ce que je ferai après, je ne sais pas vraiment, mais là je me suis inscrite en histoire de l'art parce que justement je veux continuer dans la culture, j'avais pas envie d'entreprendre des études de français en fait, parce que j'avais vu le français d'un tout autre point de vue à l'institut littéraire qui me plaisait finalement bien, puis je voulais le conserver tel quel. Donc j'ai choisi l'histoire de l'art pour continuer quand même, pour avoir une certaine continuité. Mais ce que je ferai exactement après, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je continue d'écrire.
Quand même. C'est pas un abandon de la filière littéraire.
Non, j'aurais de la peine parce que je me suis aussi construite. J'ai commencé jeune, cet institut. C'était vraiment un moment où je construisais mon caractère. Je me suis aussi construite par rapport à ce que j'ai appris là-bas.
Donc, vous voyez, Antoine Jacou, le mentor est aussi un constructeur de caractère.
C'est un jardinier. J'arrose mes caractères.
Antoinette
Richter. Oui, mais pour ma part, peut-être avant de parler de mon cas, j'aimerais aussi souligner que c'est aussi une forme de polémique, en fait, cette question des débouchés. Depuis le jour où je me suis inscrite, j'ai toujours heurté à la question, mais t'es folle, qu'est-ce que tu vas faire après avec ça?
C'est pas un métier.
Bon, alors je sais pas, il me semble que ça nie un peu le fait que la pratique professionnelle, elle existe, parce que écrire pour le théâtre avec, par exemple, une programmation dans une saison d'un théâtre, faire des lectures publiques qui sont rémunérées, faire des bourses, des résidences d'écriture, des concours, il y a mille manières d'exister sur un terrain professionnel avec des sélections de textes.
Et vous, concrètement,
Je trouve la question de la rémunération, si c'est peut-être pas suffisant pour assurer une subsistance au jour le jour, je trouve que c'est un problème de politique culturelle. Après, la précarité du statut de l'artiste, c'est pas le rôle de l'institut de la régler.
Non, c'est clair.
Voilà, donc j'avais juste envie de dire ça. Mm-hmm. Et maintenant, pour mon cas,
j'entends votre travail débouche sur une collaboration avec un éditeur. Enfin, vous avez eu des propositions.
Oui, j'ai une publication. Enfin, j'ai eu une première publication par un éditeur théâtral belge qui s'appelle Lanzmann cet automne. J'étais très heureuse de ça. Et là, j'ai un projet d'édition aux éditions de l'EB.
Ah ben, magnifique.
Voilà, ça va sortir en mars. Ça s'appelle Petite collection d'instants fossiles. Et c'est mon travail. En fait, c'est des textes très brefs. C'est le travail que j'ai élaboré avec Antoine dans le dernier semestre de la formation.
Magnifique. Alors avant de nous quitter et de vous remercier infiniment d'être venus tous, Marie Cafari, précisez qu'il y a un site, évidemment, les inscriptions aussi possibles, jusqu'à quand?
Oui, les inscriptions sont ouvertes pour le bachelor comme pour le master jusqu'au 15 mars. On trouve toutes les informations sur le site de la Haute École des Arts de Berne ou sur la page internet de l'Institut Littéraire Suisse, institutlittéraire.ch.
C'est noté, ces références figurent évidemment sur le site de l'émission entrelesignes.rsr.ch. Marie-Irine, grand merci d'avoir été notre guide aujourd'hui. On vous retrouve dans une semaine, jeudi prochain, où nous aborderons d'autres rivages, pas si différents. La poésie, c'est ça?
La poésie avec un jeune auteur, enfin un nouvel auteur, c'est Cesare Mangodi.
Très bien, on en parlera avec lui et son éditrice, les éditions Samizdat. Je vous signale que nous avons un site où figurent toutes les informations utiles. Ce site vous donne aussi la possibilité de télécharger nos rendez-vous durant un mois après diffusion. Demain, à ce micro, Jean-Marie Félix recevra trois confrères de la presse écrite pour un débat critique autour du cinéma, des nouveautés cinématographiques. C'est l'émission Zone Critique. Grand merci à Yves Roulin, qui était en régie. Yves Yeni, c'est un comédien qui vient régulièrement d'ailleurs dans l'émission aussi, ainsi qu'à Laurent Chave pour son assistance à la production. Une petite minute de savoir-vivre.
Invitation. Quand un ménage prie une femme à dîner, c'est l'épouse qui doit s'acquitter de ce soin. Sinon, l'invitation aurait un parfum d'équivoque.
Voilà qui est dit Jean-Quentin Châtelain dans une lecture du manuel de savoir-vivre de Paul Guth. Tout à l'heure, après les informations, vous avez rendez-vous avec Dardar, le magazine d'actualité culturelle. Pour l'heure, il est midi. Les infos.
RSR, Didier Duployé. Non au braquage des rentes, c'est le slogan des socialistes, des Verts et des chrétiens sociaux pour la votation du 7 mars prochain sur la baisse du taux de conversion. Selon ces trois formations de gauche, ni la situation financière du deuxième pilier, ni l'augmentation de l'espérance de vie ne justifient que ce taux passe de 6,8 à 6,4% d'ici 2016. Écoutez Uli Leuenberger, président des Verts Suisses, il répond à Vincent Bourquin.
Il y a des enjeux extrêmement importants, il y a des futurs rentiers qui vont perdre énormément d'argent, l'équivalent de 2 mois de loyer, par exemple. Il ne s'agit pas de renoncer à 2-3 cafés. Pour beaucoup de rentiers, ça va contribuer à les pousser vers la pauvreté. Pour des gens de la classe moyenne, une perte de pouvoir d'achat très important. Et ce n'est pas nécessaire, parce que ce sont les assurances, les sociétés d'assurance privées qu'ils veulent, ceux qui ramassent des millions et des millions. Les caisses autonomes de pension sont avec nous dans cette affaire.
Le marché de l'emploi se stabilise en Suisse. Les offres d'emploi ont cessé de diminuer au dernier trimestre de l'an dernier, pour la première fois depuis l'été 2008. Et la région lémanique, la Suisse du Nord-Ouest et la Suisse centrale ont même progressé, selon une étude réalisée par Adecco et par l'Université de Zurich. Denner franchit le cap des 3 milliards de francs de chiffre d'affaires l'an dernier. C'est une hausse de 2,6% par rapport à 2008 pour ce discounter contrôlé désormais entièrement par Migros. L'idée de créer un grand canton de l'arc jurassien semble séduire une majorité des habitants des cantons de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois. Un sondage commandé par la Radio Suisse romande en partenariat avec les quotidiens de la région montre que 60% de la population concernée serait favorable à un tel regroupement. Mais cette population ne veut pas de Moutier comme capitale de ce grand canton. Même les jurassiens bernois n'en veulent pas. Ils lui préfèrent Bienne ou Neuchâtel. Or, Moutier était pressenti comme chef-lieu dans l'un des scénarios de l'Assemblée interjurassienne. Le maire de cette ville, l'autonomiste Maxime Zuber, n'y voit pas pour autant le signe d'un désaveu. Il l'a dit à Muriel Balaman.
Les gens qui ont dû s'exprimer sur ce projet-là, qui est déjà assez ambitieux, ont imaginé que la capitale devrait être une grande ville. Et c'est pas étonnant si Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds sortent en tête de liste.
Moutier n'aurait donc aucune prétention de devenir la capitale d'un grand arc jurassien ?
Moutier n'a pas de prétention. Moutier veut simplement se battre pour une émancipation du Jura bernois. Et je crois que pour l'heure, il est vraiment prématuré d'imaginer où devrait être la capitale et en plus d'exiger que d'emblée, elle puisse être établie à Moutier. Ce que je constate surtout à mon niveau, c'est qu'il y a une majorité des gens du Jura bernois qui ne se sentent pas bien dans le canton de Berne, puisqu'ils souhaitent rejoindre un canton de l'arc jurassien.
Pourtant, ils sont favorables, certes, les jurassiens bernois, mais par rapport aux neuchâtelois, aux jurassiens, ce sont les plus tièdes.
55%, c'est vrai que c'est pas l'enthousiasme, mais c'est quand même un taux qui est étonnant.
Et si ce sondage vous fait réagir, irrité ou enthousiasmé par cette idée de grand canton de l'arc jurassien, faites-le savoir sur notre site rsrinfo.ch. Vos avis seront entendus ce soir dans Forum lors d'un débat public en direct de Saint-Imier dès 18h sur la première. Un absent de marque au Forum économique de Davos, le président Lula renonce. Le chef d'État brésilien se dit épuisé. Il a d'ailleurs dû être brièvement hospitalisé la nuit dernière pour cause d'hypertension. Le verdict dans l'affaire Clearstream est attendu à Paris. Le tribunal correctionnel a commencé par rejeter une demande de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui est l'un des 5 prévenus dans cette affaire de manipulation menée avec de fausses listes de comptes bancaires. Hamid Karzai tend la main à ses frères désabusés, dit-il, et non terroristes. Des propos du président afghan tenus à l'ouverture ce matin de la conférence de Londres sur l'Afghanistan. Des représentants de près de 70 pays, dont la Suisse, sont présents. Ils doivent discuter notamment du transfert de responsabilité en matière de sécurité. Première demi-finale homme de l'Open d'Australie. Elle oppose en ce moment même le Croate Marin Cilic à l'Écossais Andy Murray. Hervé Borsier, vous êtes notre envoyé spécial à Melbourne, où vous êtes en direct avec nous. Pour l'heure, on peut dire que c'est un match relativement équilibré.
Tout à fait, puisqu'il y a un set partout, le premier remporté par Marin Cilic sur le score de 6-3, le dexième par Andy Murray 6-4. Andy Murray qui est à 2 points de remporter ce troisième set. Il a fait le break dans cette partie, dans cette troisième manche, et tout à l'heure il a déjà eu 2 balles sur le service de Cilic pour terminer et remporter ce troisième set. Et il n'est plus qu'à 1 point, cette fois il mène 40-15 sur le service de Cilic. Un match extrêmement, c'est vrai, tendu, un match très 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 équilibré qu'il se joue à quelques points ici, mais évidemment sur le plan psychologique c'est très important.